Bien, bonsoir à tous. Et bienvenue pour cette 22e soirée d'éthique publique des facultés jésuites de Paris, la quatrième de cette année universitaire. Bienvenue aux fidèles. Je reconnais toujours beaucoup de visages avec joie de ce rendez-vous du premier mardi de chaque mois. Bienvenue aussi à ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue et bonne année. Je nous souhaite pour 2011 d'être des hommes et des femmes en éveil, ni naïfs, ni désabusés, mais soucieux de nous situer de la manière la plus juste face aux enjeux de notre époque. Et les soirées d'éthique publique veulent très modestement être au service de cette ambition, comme des fenêtres sur les réalités sociales, politiques, internationales, qui nous concernent tous d'une manière ou d'une autre. L'objectif étant d'essayer de nous donner les uns aux autres quelques éléments de compréhension, d'analyse, et repérer des critères, des pistes qui nous permettront de continuer notre propre réflexion personnelle ou avec d'autres. Et je précise pour ceux qui sont avec nous ce soir pour la première fois que le point de départ est donc la parole d'une ou deux personnes. Ce soir, ce sera une seule personne qui partage simplement et en confiance comment ils perçoivent les enjeux de telle ou telle réalité. La parole de nos invités n'est évidemment pas une parole définitive, mais une parole pour ouvrir à d'autres paroles, à d'autres réflexions. Je rappelle qu'il est toujours possible de s'inscrire à l'accueil ou au secrétariat du Centre SEV si vous désirez être informé par mail du thème de la prochaine rencontre, et de même qu'il est possible d'écouter ou de réécouter l'enregistrement de la soirée et de toutes les autres soirées d'éthique publique sur le site internet du Centre Sèvres, www.centresevresattaché.com. L'actualité, souvent triste, nous ramène au sujet que nous avons abordé dans nos rencontres précédentes. Nous pensons ainsi aux terribles événements d'Alexandrie et aux inquiétudes pour les Coptes et l'ensemble des chrétiens d'Orient. Mais je voudrais ce soir, en ce début de rencontre, faire mémoire d'une personne qui est venue ici, à cette table, il y a quelques mois, faire mémoire de Monsieur Tommaso Padoa-Schioppa, une des personnalités économiques les plus respectées d'Italie et d'Europe, ancien ministre de l'économie de son pays, ancien membre du directoire de la Banque Centrale Européenne. Président de l'association Notre Europe, M. Padoa-Schioppa nous avait fait l'honneur et la joie de venir le 6 avril dernier en débat avec M. Jean-Louis Bourlange sur le thème « Quelle Europe voulons-nous ?» Certains parmi vous s'en souviennent sûrement. Nous avions été nombreux ce soir-là et impressionnés par la qualité humaine de M. Padoa-Schioppa, autant que par sa réflexion à la fois sérieuse et engagée au service de l'Europe. Alors M. Padoa-Schioppa est décédé brutalement d'une attaque cardiaque à Rome quelques jours avant Noël, et je voulais lui rendre hommage ce soir, car notre société européenne a grandement besoin d'hommes de cette envergure. C'est également un hommage que le Centre Sèvres rendra samedi dans cette même salle au père Jean-Yves Calvez, disparu il y a un an, un an après, sa mémoire reste vive auprès de tous ceux qui l'ont connu, qui ont bénéficié de sa réflexion, de ses conseils. Nous mesurons encore plus distinctement, je crois, aujourd'hui, non seulement l'œuvre accomplie, mais aussi les pistes de réflexion et d'action qu'il a ouvertes et qui restent des chantiers importants à poursuivre. Cette journée de samedi veut tout autant rendre hommage à la figure de grand intellectuel et d'homme de foi que fut Jean-Yves Calvez que mettre en lumière ses intuitions politiques, économiques et sociales. Et nous serons aidés en cela par différents intervenants dont le père Madelin, le père Valadier, mais aussi Joseph Maïla, Jérôme Vignon, président des Semaines Sociales, qui est avec nous d'ailleurs ce soir, François Villeroy de Gallo, sœur Cécile Renoir et bien d'autres. Cette journée est ouverte à tous. Elle commencera à 9h15 et s'achèvera à 17h30. L'entrée est libre. C'est ce même souci de réflexion en vue de l'action qui nous anime dans le cadre de nos soirées d'éthique publique. Ce soir, il nous a semblé important de continuer à scruter notre société française. Après avoir abordé le mois dernier la crise sociale à l'occasion de la réforme sur les retraites, nous souhaitons réfléchir aux enjeux de prise en charge du soin de l'autre dans notre société. Alors que notre société française est fragilisée par une crise qui touche les plus faibles, que les systèmes de protection et d'aide sociale n'arrivent pas à faire face aux besoins et que le lien social semble se distendre, il n'est peut-être pas inutile de nous poser la question, notre société sait-elle encore prendre soin de l'autre ? Alors on pourrait décliner cette question de différentes manières selon le point de vue que l'on veut prendre. Notre société a-t-elle encore les moyens de prendre soin de l'autre? Notre société a-t-elle encore le souci du plus faible? Notre société est-elle organisée pour s'occuper de ceux qui en ont besoin? À travers cela, c'est bien sûr la notion de la solidarité, de la justice sociale, du bien commun, du contrat social qui sont touchés. Nous sentons bien qu'en abordant la question du soin de l'autre dans une société, nous touchons à un point central de ce qui fait l'humanité ou l'inhumanité d'une vie ensemble. Cette question a trouvé un regain d'intérêt que nous espérons pas seulement théorique ou politique avec l'apparition dans le débat national de la notion anglo-saxonne de care. Cette notion a surgi en France suite à une déclaration de Martine Aubry en avril dernier. Je cite, « Il faut passer d'une société individualiste à une société du care », selon le mot anglais que l'on pourrait traduire par « le soin mutuel ». Je vous invite d'ailleurs à lire l'article d'Agatha Zielinski dans le numéro de décembre dernier de la revue Études sur ce sujet intitulé « L'éthique du care, une nouvelle façon de prendre soin ». Y a-t-il de la nouveauté dans la manière de prendre soin de l'autre, de la relation à l'autre dans notre société? Y a-t-il une manière chrétienne de poser la question et d'y apporter des éléments de réponse? C'est autour de toutes ces réflexions que nous voulons demeurer ce soir. Pour nous aider à réfléchir à cette question, il nous fallait un homme au regard large, conscient des contraintes incontournables de la vie en société, mais également infatigable dans sa volonté de défendre l'homme, les hommes dans leurs relations avec les autres. Et je suis particulièrement d'accueillir en votre nom Monsieur Jean-Baptiste de Foucault. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes connu de beaucoup d'entre nous ce soir, mais permettez-moi de retracer quelques éléments de votre parcours sous votre contrôle. Si je dis quelques erreurs ou approximations, vous les rectifierez. Haut fonctionnaire, vous avez commencé votre carrière après avoir fait Sciences Po et l'ENA à la direction du Trésor du ministère des Finances, puis à l'inspection des Finances. Et sous le gouvernement Mauroy, vous avez fait partie du cabinet du ministre de l'Économie et des Finances de l'époque, qui était Monsieur Jacques Delors, dont vous êtes proche. Et vous avez d'ailleurs participé, je crois, aux travaux du club de réflexion de Jacques Delors, Échanges et Projets, lieu de réflexion important dans les années 70. En 1992, vous êtes nommé au poste important de commissaire au plan, poste que vous occuperez jusqu'en 1995. Nous savons que le commissariat général du plan était une institution qui a existé entre 1946 et 2006, chargée de définir la planification économique du pays. Ça a été pour vous des années importantes où vous prenez la mesure tant des évolutions de notre société que des réformes qui vous semblent indispensables. Par la suite, vous serez chargé de plusieurs rapports publics, dont notamment un rapport sur l'épargne salariale, publié en 2000, membre du Conseil d'orientation des retraites, puis membre du Conseil d'orientation pour l'emploi, du Conseil national de l'information statistique. Vous êtes, je crois, actuellement administrateur du Pôle emploi. Mais votre réflexion vous conduit également à vous engager de manière très concrète à entraîner autour de vous pour réfléchir aux enjeux de société. Vous avez participé à la fondation en 1985 de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage, dont vous avez été le président jusqu'en 2009, et je crois qu'il y a dans cette salle beaucoup de membres de cette association. D'ailleurs, à la sortie, à la table qui était à la sortie, il y a un certain nombre de documents pour découvrir cette association. Membre du comité de parrainage de la coordination française pour la décennie de la culture de non-violence et de paix, vous êtes également fondateur et je crois encore président de l'association Démocratie et Spiritualité. Depuis des années, par vos ouvrages portant notamment sur la crise contemporaine du lien social, vous avez vraiment aidé beaucoup d'entre nous à réfléchir. Je ne citerai que quelques-uns de ces ouvrages. Une société en quête de sens, paru chez Odile Jacob en 1995. Les trois cultures du développement humain, toujours chez Odile Jacob en 2002. Et votre dernier ouvrage, qui nous place bien au cœur de notre réflexion de ce soir, L'abondance frugale pour une nouvelle solidarité, qui est également paru chez Odile Jacob. Je n'oublie pas non plus évidemment l'article que vous venez d'écrire dans le numéro de janvier de la revue Études, Une France plus équitable, point d'interrogation. Merci beaucoup encore Jean-Baptiste de Foucault d'être avec nous ce soir. Vous êtes seul, ce qui n'est pas très habituel pour nos soirées d'éthique publique, enfin seule façon de parler, et c'est bien ainsi que nous allons pouvoir profiter de vous. Nous allons donc vous écouter pour un temps d'une bonne demi-heure environ. En préparant avec vous cette soirée, il a semblé intéressant d'articuler votre propos autour de trois thématiques, trois questions. Quel constat faites-vous de la situation actuelle de notre société française sur cette question, donc précisément du soin de l'autre? Quelle piste vous semble importante à explorer, quel chantier incontournable et urgent selon vous? Et puis, quelle peut être la spécificité chrétienne sur ce sujet? Alors, autant de questions qui, j'en suis sûr, ouvriront ensuite un large débat entre nous et avec vous. Sans plus attendre, je vous laisse la parole.
Bien, merci beaucoup. Je vais essayer de remplir ce cahier des charges sur un sujet qui est très, très large. Bon, je me suis interrogé sur la question que vous posiez. Qu'est-ce que vous entendez par notre société? Est-ce que ce sont les institutions de la société? Est-ce que s'agit de chacun d'entre nous qui formons la société, ou l'ensemble des deux? Vous dites, la société sait-elle encore prendre soin des autres, mais a-t-elle jamais su vraiment prendre soin des autres? Est-ce que la question de l'autre n'est pas toujours une question ouverte à tout moment? Prendre soin de l'autre, mais quel autre? L'autre proche, l'autre de la famille, des enfants, des ascendants, des personnes âgées, l'autre du voisinage, l'autre de la profession, l'autre qui est plus lointain, l'étranger. Quel autre? Voilà, il y a beaucoup d'autres qui ont des visages différents. Et puis, soin de quoi? Soin général, une espèce d'attitude ouverte aux difficultés de l'autre, ou bien soin particulier dû à des difficultés en matière de santé, de travail, de solitude, ou même de spiritualité, parce que aussi on a un soin spirituel de l'autre aussi. D'ailleurs, si on a un soin spirituel, on a un soin de tous les autres aspects, normalement, puisque il n'y a pas de spiritualité qui ne soit pas incarnée. Alors, le constat d'abord. Le constat, alors, j'ai eu envie de faire un petit retour historique, bien que je ne sois pas historien. Il me semble que il faut prendre les choses en perspective, effectivement, si on veut essayer de traiter le sujet, un peu globalement d'abord. Les sociétés d'Ancien Régime il y avait un contrat implicite. C'est que chacun appartenait à quelqu'un d'autre, et cet autre auquel il appartenait lui devait protection. Et au fond, un mécanisme de liaison entre obéissance, respect d'un côté et protection de l'autre. Le soin à cette époque est plutôt lié à un devoir de protection, plus ou moins bien assumé évidemment, et avec en arrière-fond d'une société hiérarchique, monarchique, un très fort investissement religieux. À la fois prendre soin de l'autre, c'était à la fois faire son salut et le protéger dans la société. La révolution de 89 a complètement bouleversé cette chaîne hiérarchique, puisqu'elle a mis tous les individus à égalité. Et elle a même été un peu plus loin, parce que, en définitive, elle a dit à chacun « Prenez soin de vous-même d'abord. Vous êtes libre. Il faut vous occuper de vous-même. Vous êtes responsable. Vous avez une liberté à gérer. Et si chacun gère sa liberté, il n'y a plus besoin d'une certaine façon de prendre soin de l'autre, si chacun fait bien son boulot avec lui-même. » C'est un grand bouleversement. Marcel Gauchet insiste beaucoup sur la révolution métaphysique, il l'avait dit un soir ici, je me souviens, nous avions fait une réunion avec Démocratie et Spiritualité, la révolution métaphysique a constitué le fait de passer d'une société hiérarchique, où on se protégeait dans le cadre d'une hiérarchie, à une société égalitaire, au moins en droit, où chacun a des droits. Et s'ajoute à cela le marché, la mise en place des mécanismes de marché, on casse les réglementations qui protégeaient, fameuse loi Le Chapelier, et chacun est amené à poursuivre son intérêt, sachant que la somme des intérêts poursuivis par chacun va donner l'intérêt général. Voilà ce qui est la thèse dominante. Bien entendu, je simplifie. Il y a donc une individualisation du soin. C'est le soin vis-à-vis de soi qui, au fond, et l'impératif premier, et on connaît ces phrases célèbres d'Adam Smith, qui, avant d'être un théoricien du libéralisme, a été un théoricien des sentiments moraux, et qui disait « J'ai plus confiance dans mon boulanger lorsqu'il fait du pain dans son propre intérêt que s'il fait du pain pour être bienveillant avec moi. » Donc il y a l'idée d'une espèce de rationalité, de l'individu qui cherchant à se satisfaire lui-même, au fond, satisfait les autres. Et ça a d'une certaine façon marché, puisque chacun essayant de se satisfaire lui-même, donc de gagner plus d'argent, donc invente des mécanismes plus productifs, qui éliminent les moins productifs, et tout ceci fait du progrès, pour ceux qui peuvent en profiter du moins. Le problème, c'est que il y a des maux, il y a des fatalités, il y a des risques dont on n'est pas responsable. Et dans ce cas-là, la théorie de la responsabilité individuelle ne suffit pas. Et si les individus ne se doivent plus rien les uns aux autres, que devient la société vivante, la société réelle, la société charnelle ? Dans tout le début du XIXe siècle, il y a une énorme réflexion qui est très actuelle d'ailleurs, de tous les théoriciens qui se disent avec angoisse que va devenir le lien social dans ce système où tous les individus sont comme des atomes qui sont au fond autonomes les uns des autres et qui peuvent être séparés les uns des autres. On voit ces réflexions aussi bien dans les théories des pré-socialistes que chez les penseurs considérés comme libéraux, et notamment comme Alexis de Tocqueville. Tocqueville explique qu'il est lui-même né d'une famille aristocratique, dont son père a été un préfet de la Révolution, sa mère a été emprisonnée, ils ont été marqués par tout ceci, il se dit, mais dans quel monde, vers quel monde allons-nous? Et donc il va voir aux États-Unis pour voir comment ça fonctionne et pour en tirer des leçons. Donc ça donne la démocratie en Amérique, mais il est hanté par l'idée que les démocraties vont devenir individualiste, matérialiste, rationaliste, et que ça va poser beaucoup de problèmes. Donc il invente, il réfléchit à des tas d'antidotes, à des tas de contre-pouvoirs. Et nous arrivons à une troisième étape. C'est qu'on voit bien qu'effectivement, l'individualisme ne suffit pas à protéger l'individu contre les risques. Et comme il n'est plus protégé par des structures de protection verticale, eh bien, il faut trouver autre chose. Et à ce moment-là, se développe, on invente une manière collective de prendre soin de l'autre par de la technique. On passe d'un devoir moral organisé par des institutions, au fond, dans la féodalité, à une organisation plus technique, plus collective, qui est l'assurance. On va s'assurer contre les risques. On va mutualiser les risques. D'abord des assurances privées. On peut très bien faire un pool commun de personnes qui sont soumises à certains risques. Et donc, ils vont s'assurer en payant une cotisation. Et ceux qui n'auront pas vu ces risques devenir des réalités, paieront pour ceux pour qui ces risques seront advenus. Par exemple, vous avez l'assurance sur le dégât des eaux, par exemple, dans une habitation. Personne n'est obligé de le prendre. On a intérêt à le prendre parce que ça ne coûte pas très cher et ça peut coûter gros si on n'en prend pas. Voilà. Assurance privée d'abord et ensuite assurance publique. Alors là, c'est autre chose, la sécurité sociale. On parle d'assurance, mais c'est une assurance qui est financée autrement. Dans l'assurance privée, l'assurance automobile, par exemple, on tarifie le risque. Les assureurs tarifient le risque. Et ceux qui n'ont pas les revenus pour payer cette assurance ne peuvent pas s'assurer. La grande création qui a démarré avec le solidarisme dans les années 1910, Léon Bourgeois, puis qui s'est développé ensuite avec la doctrine sociale de l'Église, avec les assurances familiales, puis la sécurité sociale au lendemain de la guerre, avec les grandes ordonnances qui avaient d'ailleurs démarré en Allemagne un peu plus tôt avec le système bismarckien, c'est l'idée que tout le monde doit être assuré. Pour que tout le monde soit assuré, il faut tarifer l'assurance non pas par un tarif qui est fonction du risque, du prix, mais en fonction du revenu de la personne. Si nous sommes tous assurés contre la maladie, c'est parce que nous payons des cotisations qui sont proportionnelles à notre salaire. Si nous étions obligés de nous assurer de manière privée, il se passerait ce qui s'est passé aux États-Unis jusqu'à une période récente, c'est que des gens ne pourraient pas s'assurer, parce que ça serait trop cher. Donc, on a organisé une véritable solidarité. Et on l'a mis en place d'abord pour la famille, avec une forte, d'ailleurs, implication des milieux chrétiens à l'époque, du patronat chrétien. Puis, après les grandes ordonnances de 1945, pour la retraite, par régime, par répartition, pour la santé, et ensuite pour le chômage, à partir de 1959. Et c'est un véritable progrès de civilisation. L'humanité s'est organisée pour prendre en charge collectivement des risques qui pesaient sur la nature humaine. Donc il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces systèmes, de ces institutions. D'ailleurs, ces institutions, beaucoup de pays pauvres n'en ont aucune forme. L'OIT met actuellement l'accent sur le fait que la protection sociale telle que nous la connaissons, à laquelle nous sommes habitués, ne doit couvrir qu'à peu près 20% de la population mondiale. Alors le problème, c'est que cette institutionnalisation du soin, au bout d'un certain temps, elle trouve ses propres limites et elle pose des problèmes. D'abord, elle coûte cher. Et ce coût collectif, il faut savoir qu'aujourd'hui, la protection sociale, c'est à peu près 30% de notre produit intérieur brut. Si on ajoute la santé, les retraites, le chômage, demain la dépendance, tout ça est très coûteux. Tant que nous avions une croissance forte, au lendemain de la guerre, et jusque, disons, première grande crise pétrolière de 73. Croissance forte avec une forte productivité qui n'empêchait pas le plein emploi, on a pu à la fois développer la consommation individuelle, la consommation collective. Et dans un système économique plus concurrentiel, où la productivité augmente moins vite, où il y a moins de marge de manœuvre, où si on augmente trop le coût du travail, il peut y avoir des risques pour l'emploi, eh bien la protection sociale, qui a tendance d'ailleurs à s'auto-développer sans cesse, commence à créer des problèmes de déficit et des problèmes de financement. Donc on a un problème économique. La protection sociale est à la fois un avantage économique, elle aide la main-d'œuvre à être plus opérationnelle, mais en même temps, elle est une charge, elle a une double face. Voilà. À ceci s'ajoute que plus on est couvert, plus on risque d'être irresponsable. Bon, à partir du moment où j'ai la sécurité sociale qui s'occupe de ma santé, je peux, au fond, fumer, boire de l'alcool, après tout, on me soignera. Et on peut demander, ça peut conduire à négliger la prévention. Donc il y a toute une critique économique qui s'est développée peu à peu pour dire, au fond, tout ceci pose des problèmes. Et puis on aboutit progressivement à une société qui développe les droits plus vite que les devoirs. On a plein de droits sur la société, mais on ne se doit plus grand-chose les uns aux autres, puisque, au fond, on a une société qui prend soin de nous. Alors cette évolution arrive à un moment où, au moment même où les systèmes de protection sociale ont du mal à faire face aux besoins, un individualisme très puissant s'est développé, une tendance à la déliaison sociale, le fait que, même s'il y a beaucoup de contacts sociaux grâce aux technologies modernes, il y a moins de liens sociaux, c'est-à-dire des liens. Le lien, c'est ce qui dure quand ça va mal. Le contact, c'est ce qui est là quand ça va bien. C'est ce qui fonctionne quand il est gratifiant. Mais le lien, c'est ce qui aide les personnes à être soutenues quand ça va mal, sans être emprisonnées. Il faut des liens ouverts, il ne faut pas des liens qui enchaînent. On est dans une société dans laquelle il y a tout de même beaucoup de déliaisons, c'est-à-dire que les couples, les familles sont moins stables. Dans l'emploi, au fond, on s'est habitué au chômage. Et donc nous sommes dans une situation où, surtout dans le système français, on est assez proche d'une espèce de schizophrénie où on dit au fond à l'État la solidarité, à l'individu la liberté. Et donc, le système peut marcher un certain temps, mais un autre, au bout d'un certain temps, il dysfonctionne. Et il y a un cas particulier où il y a, au fond, moi, quelque chose qui nous a amené à créer l'association dont j'ai bien voulu parler, qui est la question des demandeurs d'emploi, des chômeurs. Il est clair qu'on ne s'occupe pas des chômeurs. On ne prend pas soin des chômeurs. C'est très frappant dans l'association dont dans laquelle nous essayons d'agir, de constater à quel point une personne qui se trouve au chômage, eh bien, elle voit ses liens sociaux se distendre peu à peu. Là où il faudrait au contraire les renforcer, les activer, pour soutenir les personnes, pour faire circuler l'information, pour leur donner des pistes, mais c'est le contraire qui se produit. Il se produit par une espèce d'accord tacite mutuel. D'une part, la personne en recherche d'emploi qui tendance à se décourager, qui vit une expérience difficile. On lui demande d'être plus active, d'être plus dynamique pour chercher au moment où elle est angoissée, stressée, et où elle essuie des rebuffades. Donc, elle a tendance à se décourager et à être mal à l'aise vis-à-vis des autres. Les autres, les amis, les proches, savent pas trop quoi faire. Ils sont mal à l'aise. Ils se disent « Pourquoi lui ? Pourquoi moi ?» Puis il y a un peu de nervosité, un peu de tension qui se produit dans les relations, un peu de jalousie, d'énervement. Et donc, tout doucement, comme ça, sans qu'on le décide vraiment, c'est la petite dérive des continents. Voilà, chacun part de son côté et personne vit une solitude plus lourde. Voilà. Et donc, et ça aggrave le chômage. Voilà. Donc, il y a vraiment un problème. Il y a trop d'écart entre les mécanismes institutionnels de solidarité d'un côté et la déliaison de fait qui s'est produite dans beaucoup de domaines. On pourrait en citer d'autres. Chacun pourrait développer le problème des personnes âgées, quand même un vrai problème. Bon, ce qui se passe dans les maisons de retraite n'est pas particulièrement drôle. Il y a de la maltraitance un peu partout. Alors, quelles sont les pistes à explorer pour sortir de cette situation un peu schizophrénique, qui ne peut pas durer éternellement? Alors, la première chose, c'est que je pense qu'il faut prendre conscience du fait que le rapport à l'économique est en train de changer et que la question du temps, de l'usage du temps, va reprendre une importance, doit reprendre une importance plus grande. Nous avons passé un pacte faustien avec le marché, au fond. Nous avons dit à l'économie, nous avons dit au marché, développe-nous au marché, et nous allons accepter tes règles pour pouvoir nous développer. Et ça, d'une certaine façon, marchait, fonctionnait. Mais nous sommes arrivés à un point limite aujourd'hui. C'est que l'économie ne peut plus nous donner autant que ce que nous lui demandons. C'est ce que j'ai essayé de développer dans mon dernier livre, l'idée que les désirs aujourd'hui sont en situation d'excès par rapport aux moyens de les satisfaire. Le système économique de l'après-guerre, d'une certaine façon, a été au-devant des désirs. Mais aujourd'hui, les désirs de tous ordres, aujourd'hui, voilà, c'est la floraison des désirs. Il faut à la fois avoir plus de temps, plus d'argent, avoir à la fois plus de protection sociale, mais aussi plus de pouvoir d'achat individuel, toutes les nouvelles technologies tout de suite. Or, il y a chaque année non plus 5% de plus à distribuer, à l'époque glorieuse du commissariat au plan, où on avait le luxe de pouvoir dire, voilà, nous avons 5% par an, qu'allons-nous faire? Alors, les uns disaient un petit peu plus de consommation individuelle, les autres un peu plus collée. C'était quand même des choix de luxe. Aujourd'hui, nous essayons péniblement d'avoir 1,5-2% de croissance, certains arrivent à un peu plus. Il y a 2-3 fois moins de choses à distribuer, et les désirs fonctionnent à pleine vitesse. Et on peut les comprendre. Je dirais tous ces produits nouveaux comme l'informatique sont des progrès humains considérables, mais ils coûtent. Les normes écologiques, les normes de qualité de vie, ce sont des coûts croissants. Voilà. Donc nous sommes dans une situation où nous avons des désirs qui sont en excès par rapport aux moyens de les satisfaire. Il va donc falloir les réorienter. Les réorienter parce que cet excès de désir, je pense que c'est à la fois, c'est une des causes de la crise financière. La finance, en réalité, elle a voulu gagner plus alors qu'elle sait qu'on ne peut pas tellement produire plus. Alors comment gagner plus sans produire plus? On fabrique des produits qui s'avèrent de faux produits. Dans l'entreprise, l'entreprise est prise en étau aujourd'hui entre les consommateurs qui veulent des prix bas et des produits de bonne qualité, des actionnaires qui veulent des rendements très élevés. Donc on pressure le travail, soit en diminuant les effectifs, soit en augmentant les cadences. Donc la vie au travail est devenue difficile et le manque de soins des chômeurs que je dénonçais quelques instants, bien qu'ils soient, même s'ils sont indemnisés, à ce manque de soins s'ajoute un manque de soins dans le travail. Alors, le marché prend soin des consommateurs, mais le marché ne prend plus soin des travailleurs. Et donc, il y a un malaise dans le travail et dans l'ensemble. Je dirais, l'économique pèse aujourd'hui trop sur le relationnel et sur le spirituel. Le temps de la relation est phagocyté par le temps productif, soit par le chômage, par le temps de non-production, soit par un temps de travail qui devient plus difficile à vivre, qui pèse sur la famille. Aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui, ont une vie beaucoup plus dure que celle que j'ai pu connaître. D'abord, l'emploi est un long chemin, et ensuite, même leur possibilité de créer une famille est perturbée par le professionnel. Et quant aux besoins spirituels, avec le temps que ça implique, donc la question de rééquilibrer entre les besoins professionnels, les besoins relationnels et les besoins spirituels est devenue une question fondamentale, simplement pour s'occuper des uns des autres. Voilà. Alors, ceci est possible parce qu'en même temps, dans le grand mouvement des sociétés, je pense qu'un nouveau vivre ensemble est en train de s'élaborer peu à peu, qui est à rebours du système général de management qui fonctionne dans la société. Quelque chose est en train de s'imaginer aujourd'hui, qui retrouverait assez bien cette fameuse trilogie de Paul Ricoeur, quand il disait qu'il fallait à la fois avoir souci de soi, intérêt pour l'autre et institution juste. C'est, je crois, on voit bien ce que veut dire Ricoeur avec cette trilogie. Il faut à la fois s'intéresser à soi-même, soi-même comme un autre, comme il dit. C'est-à-dire qu'il faut, on n'aide pas bien les autres si on est mal dans sa peau et si on n'a pas soi-même son équilibre. En même temps, il faut de l'intérêt pour autrui, mais il faut que ça se passe, mais ça ne suffit pas, il faut des institutions justes. Beaucoup de réflexions aujourd'hui tournent autour de l'anthropologie du don. Le fait de donner, de recevoir et de rendre, beaucoup de réflexions. Alors, c'est une énorme panoplie de réflexions, et certains l'axent plutôt sur l'anthropologie, puisque nous sommes dans l'éthique publique avec, en repartant des idées de Marcel Mauss, qui explique que ce qui fonde les sociétés, c'est le fait de donner, le fait de recevoir, qui crée une obligation de rendre. Et Alain Caillé, qui est un des théoriciens de cette réflexion, a une idée très juste. Il explique que le don est à la fois une obligation et une liberté. Il faut donner, c'est une obligation. À Noël, on donne, mais on donne ce qu'on veut. Donc il y a de la liberté et de l'obligation. C'est en même temps intéressé et désintéressé. On est dans une zone indécise. Voilà. Il y a dans le fait de donner, il y a du désintéressement, puisqu'on se prive de quelque chose, mais ça n'est pas sans une arrière-pensée de recevoir quelque chose. D'abord un contre-don, puis de se valoriser aux yeux de soi-même, d'être celui qui donne. Dans l'anthropologie, on a même de la concurrence par le don, ce qu'on appelle le don agonistique. Voilà. Donc, mais en tout cas, il y a une prise de conscience de l'idée que le fait de ne vivre que pour soi, c'est s'appauvrir. Et le fait que les autres ont à vous apporter, qu'en donnant aux autres, on s'apporte à soi-même, au bon sens du terme, que l'intérêt pour l'autre est une forme d'intérêt pour soi aussi, cette idée se répand. Ça n'est pas tout à fait le don spirituel qui va plus loin, qui est dans que développeraient plus d'autres philosophes. Bon. Mais cette idée que l'égoïsme, l'utilitarisme, sur lequel ils sont beaucoup développés dans la société permissive d'après mai 68, sont aujourd'hui arrivés à leurs limites, cette idée se répand tout de même. Elle se répand dans différents milieux, milieux associatifs, milieux écologistes. Et je dirais même dans les milieux chrétiens. Aujourd'hui, on est sur une vision du christianisme qui est, dans l'ensemble, moins sacrificielle. Je ne dis pas qu'elle ne soit pas généreuse et exigeante, mais moins sacrificielle et plus comme un élément du bonheur, au fond, au bon sens du terme. C'est quand même une évolution énorme. Donc, ce vivre ensemble, il est impalpable, mais il est là. On voit des gens qui vivent bien, qui ont su trouver quelque chose. Voilà. Simplement, il n'est pas intégré dans le collectif, dans le management, dans le mode de gestion de notre société, qui sont extraordinairement marqués par la norme, par le haut en bas, par le besoin de produire plus, de s'acharner à gagner un petit peu plus. Il y a une espèce de clivage qui empêche cette redistribution équilibrée entre la protection sociale, le temps, l'intérêt pour autrui. Donc il y a besoin de trouver quelque chose pour que le politique prenne tout ça en charge. Voilà. Alors là, nous sommes sur un moment difficile, parce que le politique, dans cette crise actuelle, qui est une crise quand même systémique, est en grande difficulté. Je veux dire, il est en difficulté aussi bien à gauche qu'à droite, pour parler brutalement. que la droite ne pourra pas sauver le modèle social sans augmenter les impôts. Or, elle n'a pas été élue pour ça. Et la gauche ne pourra pas augmenter le pouvoir d'achat et en même temps résorber la dette. Or, en général, elle se fait élire pour le pouvoir d'achat. Donc le politique est en difficulté. Et donc la société civile doit dire des choses. Elle doit dire des choses et elle doit dire que nous devons changer à trois niveaux en même temps, si on veut vraiment que la société prenne soin des autres. Il faut des changements de comportement individuel. On va être obligé de changer un peu. Voilà. Il faut des changements organisationnels. Les organisations aujourd'hui ne fonctionnent plus pour les personnes qui sont au sein d'elles-mêmes. Elles fonctionnent pour une espèce de logique de moyens. Et beaucoup de gens sont dans les organisations aujourd'hui, mais leur âme n'y est pas. Voilà. Leur intime n'y est pas. Il y a un désaccord entre l'intime et le système qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, un peu partout, dans l'administration qui ne va pas bien, dans les entreprises. Donc il va falloir changer les organisations, pour pas nécessairement les révolutionner, mais les faire fonctionner autrement. Et puis il y a des changements politiques nécessaires. La société n'est pas assez juste. Et il y a la question du chômage. Donc, en réalité, je réfléchis avec quelques associations à l'idée de proposer un pacte civique, c'est-à-dire l'idée qu'on ferait fonctionner ces trois leviers de changement en même temps. Ceux qui signeraient s'engager à ces trois changements, un peu comme Nicolas Hulot l'a fait pour l'écologie, et avec quelques principes de base qui sont que nous allons devoir être plus créatifs, autrement créatifs, pas seulement créatifs sur le plan économique, matériel, utilitariste, mais créatifs sur le plan relationnel, spirituel, plus sobre, la sobriété me paraît incontournable, plus juste, et la sobriété est la condition de la justice, justice pour la planète, justice pour les autres, et plus fraternelle, se vivre ensemble. Et ça passe ceci par la question, évidemment, emblématique du chômage. Parce qu'on ne peut pas y avoir du vivre ensemble correct avec à peu près 5 millions de personnes qui souffrent d'une manière ou d'une autre d'insuffisance de travail. Que ce soit parce qu'elles ne travaillent pas du tout, que ce soit parce qu'ils disent oui dans les enquêtes, oui je voudrais travailler mais je n'y crois plus donc je ne cherche même plus, ou que ce soit parce qu'ils travaillent un peu mais moins qu'ils ne voudraient. C'est quand même près de 4 ou 5 millions de personnes. Donc il y a un problème collectif, ce serait un autre sujet de conférence. Mais je crois que le problème français, pour le dire en trois mots, c'est que nous ne sommes pas cohérents. Nous n'avons pas su trouver soit le modèle libéral qui est violent, injuste, mais qui est efficace, soit le modèle social-démocrate d'Europe du Nord ou même d'Allemagne, d'économie sociale de marché dans lequel il y a de la discipline collective. Voilà. Soit il faut un modèle exigeant, mais il faut de la discipline. Soit on a un modèle individualiste, à ce moment-là, il est plus cruel, mais il faut y aller jusqu'au bout. Nous sommes entre les deux. Voilà. Par contre, ce que je crois, c'est que nous devrions prendre davantage soin des demandeurs d'emploi. Et nous pouvons le faire. Et autant les chrétiens sont quand même plus actifs dans la question sociale qu'ils n'ont été actifs sur la question ouvrière au 19e, donc je pense que le monde chrétien pourrait quand même en faire un peu plus dans ce domaine. Je pense par exemple que le carême devrait être une occasion de demander à des demandeurs d'emploi de parler de leur chômage, de voir ce qu'ils vivent et puis ce qu'on peut faire pour eux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Ben, on peut faire deux choses. D'abord, il y a l'entraide informelle. Moi, je crois que c'est important l'entraide informelle. Vous avez des amis, des parents aux demandeurs d'emploi. Ne les fuyez pas. Invitez-les à dîner. Voyez-les. Voilà. Parlez. C'est le silence qui est le non-soin absolu. C'est le silence. Eh bien, ne laissez pas le silence s'installer sur le chômage. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, ben, il y a des formes d'entraide organisée. C'est ce que nous proposons à Solidarité face au chômage, des petits groupes de solidarité. Je ne suis pas venu là pour développer ce point, mais des petits groupes de solidarité qui se réunissent tous les mois, qui partagent du temps et du revenu pour ceux qui peuvent, qui mettent à disposition des demandeurs d'emploi un binôme de deux personnes qui vont accompagner personnes en recherche d'emploi, jusqu'à ce qu'ils trouvent, et si leur démarche de retrouver de l'emploi paraît difficile, grâce à l'argent collecté, nous subventionnerons l'embauche de ces personnes dans une association pour qu'ils retrouvent un vrai travail avec un vrai contrat de travail. Bon, voilà comment marche le dispositif. Et ce qui est important, c'est quand même qu'on découvre beaucoup de choses dans cette... On découvre d'abord qu'on peut agir, voilà. On n'est pas impuissant face au chômage. Le problème, c'est de s'organiser selon des méthodes qui soient un peu auto-formatrices, voilà. Et donc, ces méthodes un peu souples, qui demandent de l'implication, demandent 2 heures par semaine, c'est tout compris, ce qui est à la fois réaliste, mais possible. C'est une découverte de l'autre, découverte de la situation sociale, découverte de soi aussi. On découvre qu'on peut faire des choses auxquelles on ne pensait pas, on découvre ses limites aussi, on découvre... voilà. C'est donc quelque chose qui n'est pas... Il y a du don, mais il y a aussi du contre-don. Voilà. Et donc, je pense que c'est extrêmement... Je pense qu'il faut que dans les années qui viennent, nous sortions notre pays de cette... situation de chômage dans laquelle il est en train de s'habituer. Il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas y arriver. Il est intéressant de constater, par exemple, que l'Allemagne aujourd'hui a un taux de chômage plus bas qu'avant la crise. C'est quand même... Hein, voilà. Bon. Et j'insiste sur ce point parce que, bien sûr, l'emploi ne règle pas tout. Mais comme je l'ai souvent dit, notamment aux semaines sociales qui m'avaient fait parler sur le sujet, le chômage dérègle tout. Quand il y a du chômage, on ne peut plus traiter les problèmes. Ça devient impossible. Voilà. Trop compliqué. On est dans l'assistance. Voilà. Donc, il faut absolument se mobiliser autour de ce sujet. C'est pour moi, le point focal du soin de l'autre aujourd'hui, c'est ça. Alors, je terminerai... par problème de spécificité chrétienne dans le soin à l'autre. Bon, je vais vous donner mon point de vue. Ce n'est pas un point de vue plus qualifié que moi pour donner le point de vue officiel. Mais je veux dire ce qui me frappe. C'est 3 choses. Premièrement, le caractère toujours très équilibré du message de l'Église sur ce point, qui met toujours exactement à même niveau l'importance des institutions et l'importance de l'engagement individuel. Et ça, c'est une grande tradition constante. C'est-à-dire qu'il n'a jamais dit « l'individu vont s'arranger ». Toujours, il y a eu le souci de l'institution. Et aujourd'hui, où l'institution, où on a tendance à se défausser du problème sur l'institution, elle insiste, à juste titre, sur l'engagement individuel. C'est une grande force intellectuelle, mais c'est pas facile à communiquer les visions équilibrées. C'est pas vendable, et pourtant c'est juste. Ça, c'est la première chose qui me frappe. Alors la seconde, si on revient à ce qu'il faut toujours faire, c'est-à-dire revenir à l'Évangile, c'est que l'Évangile, pour moi, c'est une radicalité graduée. C'est une grande force. Mais là encore, c'est un message double. C'est une des difficultés du christianisme. C'est pas une religion simple. C'est une religion de la complexité. C'est une religion de la complémentarité. Pour moi, c'est une religion talmudique, en réalité. Une radicalité graduée. Parce que quand vous prenez les différentes paraboles, ben vous avez le jeune homme riche. Lui, on lui en demande quand même beaucoup. On lui dit, tu veux me suivre? Donne tout aux pauvres et suis-moi. Il recule. Mais en même temps, Zachée, lui, on lui dit, il donne la moitié de ses biens aux pauvres, comme d'autres aujourd'hui en Amérique d'ailleurs, et on lui dit, c'est très bien. Et le bon samaritain, qui est quand même aussi notre... C'est intéressant d'abord de voir que, c'est un peu cruel, il y a un blessé sur la route, il y a d'abord un prêtre et un lévite qui passent de l'autre côté, comme beaucoup d'entre nous face aux chômeurs. Puis le samaritain, il est un peu... C'est un être un peu exclu, il n'est pas tout à fait de la communauté. Donc du coup, c'est peut-être parce qu'il est lui-même... Il se sent lui-même, il est conscient de sa part d'exclusion, la part que nous portons tous, qu'il va s'approcher de l'autre. Mais en même temps, il ne change pas de vie, le bon samaritain. Il prend la personne, il fait les gestes immédiats, puis il la porte à une auberge, et il dit à l'aubergiste, voilà une pièce, prends soin de lui, à mon retour, je te donnerai la deuxième pièce. Donc il fait un petit, il organise un petit travail social au fond, il institutionnalise un peu son entraide. Mais il n'a pas changé de vie. Et pourtant, c'est lui le prochain. Donc on lui demande beaucoup moins qu'à Zachée, il n'a pas donné la moitié de ses biens, et encore moins qu'au jeune homme riche qui, lui, en a voulu trop et n'a pas réussi à aller, s'était lancé un défi trop fort pour lui, au fond. Donc il y a une exigence vers la radicalité, mais en même temps une tolérance, une compréhension de nos limites. Voilà. Mais en même temps, il y a quand même une exigence, voilà. Il y a un minimum. Le bon samaritain, c'est le minimum. Voilà. Puis la troisième chose qui me frappe, c'est en même temps, c'est une théologie extrême. Il y a le fameux Matthieu 25. Je ne sais pas si dans les autres religions, on va jusqu'à dire cela. Vous vous souvenez de ce que dit Matthieu 25, c'est-à-dire « Merci à vous qui m'avez soigné, merci à vous qui m'avez aidé, mais quand avons-nous soigné ? Mais quand j'étais pauvre, quand vous m'avez aidé alors que j'étais pauvre, j'aurais dû reprendre le texte et vous le lire, mais c'était moi que vous aidiez. » Donc, la figure de Dieu est presque intégralement présente dans celui en difficulté qu'on aide. C'est parce qu'il est en difficulté qu'il devient la figure de Dieu, finalement. C'est quand même d'une audace théologique extraordinaire, quand on y réfléchit. C'est-à-dire qu'on est dans l'extrême de l'immanence et dans l'extrême de la transcendance en même temps. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs dans ces moments-là que la spiritualité atteint son apogée. C'est-à-dire que quand on arrive à faire sentir, à faire percevoir l'entrecroisement, l'imbrication complète de la transcendance et de l'immanence. Et c'est ça qui se passe dans ce passage, qui surprend d'ailleurs, mais qu'il faut lire au fond et pas superficiellement. Donc, et alors en même temps, voilà, le pauvre n'est pas qu'un révélateur de Dieu, c'est aussi un révélateur de soi. Parce que, il me semble qu'un des problèmes de la société, le fait qu'on ait du mal à prendre soin de l'autre en difficulté, c'est qu'on ne veut pas voir qu'on a en nous-mêmes toujours un autre de nous-mêmes en difficulté. On est dans une société où on valorise le fort, on valorise, il faut être fort, là, faut pas montrer ses faiblesses, surtout pas. Or, la fragilité consciente peut être une source de compréhension de l'autre. Je dis souvent, pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu le dire si je me répète, mais on aide avec ce qu'on a de fort, mais on comprend avec ce qu'on a de faible. Parce que, à partir du moment où on ne veut pas se le cacher à soi-même. Et tout ceci m'amène, pour conclure, à dire une chose que dit fort bien Étienne Grieux dans le très beau livre qu'il a consacré à l'idée de diaconat, il s'appelle « Un lien si fort », c'est que l'idée que le soin de l'autre ne doit pas être considéré comme un service annexe de l'Église. Il dit, Étienne Grieux, qui a de très belles formules sur ce qu'il appelle l'économie gracieuse, par exemple, c'est une formule magnifique. Comment arriver à former une économie gracieuse ? Économie de la grâce, économie gracieuse, enfin c'est très bien vu. Il dit donc que le soin de l'autre, ça n'est pas un service, comme un service annexe qu'on mettrait dans un organigramme de l'Église. C'est l'Église elle-même. Voilà. Et c'est ce que le message que nous ont fait passer l'abbé Pierre ou le père Wojcinski, finalement. C'est ça le message qu'ils nous ont fait passer. Et donc, il y a une spécificité chrétienne tout de même assez forte, parce que la vision du divin dans le christianisme, notamment avec ses différentes modalités, elle est quand même extrêmement tournée vers cette dimension du soin de l'autre, puisque l'autre, au fond, c'est la face de Dieu.
Merci beaucoup.
J'ai volé 10 minutes.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste de Foucault. C'est vrai que c'était un peu un tour de force de pouvoir nous conduire ainsi dans cette réflexion autour de ces trois thématiques. Pour ma part, je retiendrai des choses importantes pour moi. Ce parcours historique qui nous a bien montré un peu les limites de chaque époque, de ce qui a été réfléchi, mis en route depuis la société d'Ancien Régime où le devoir de protection fondait le soin de l'autre, le passage par la Révolution avec l'individualisation du soin, la satisfaction des intérêts de chacun devant conduire à l'intérêt de tous, et puis on se rend compte aussi qu'on arrive un peu à une nouvelle étape où il y a des maux qui ne sont imputables à personne, que l'individualisme ne suffit pas, et donc eh bien on invente une manière collective de prendre soin de l'autre par la technique de l'assurance individuelle et publique, que là aussi on en voit au bout d'un moment les limites, notamment celui du coût, celui peut-être de l'irresponsabilité, cette tendance à la déliaison qui peu à peu s'installe dans notre société. Alors, vous nous avez aidé à repérer un certain nombre de pistes que nous allons pouvoir continuer à explorer. Prendre conscience que le rapport à l'économique et à l'économie a changé, que cette économie elle ne peut plus nous donner autant que nous désirons, que le rapport au temps évolue et qu'on est bien face à un malaise dans le travail. L'économie pèse trop, avez-vous dit, sur le relationnel et le spirituel. Le temps relationnel est phagocyté par le temps productif. Je crois que des choses importantes à entendre pour nous. Alors, un nouveau vivre ensemble est en train de s'imaginer, et vous avez rappelé cette trilogie de Paul Ricoeur, ce nouveau vivre ensemble, il devra prendre en compte le souci de soi, l'intérêt pour l'autre, et puis les institutions justes. Et qu'en cela, eh bien, chacun doit pouvoir aider le politique, il a besoin d'être aidé, ce politique, parce que dans cette crise systémique, il est en grande difficulté. Donc, toute évolution passera à la fois, selon vous, par à la fois des changements de comportement individuel, mais aussi des changements organisationnels et des changements politiques. On peut donc agir, et vous avez pris mis en lumière la question du chômage, question centrale pour vous dans la situation actuelle de notre pays, et que le monde chrétien notamment pourrait en faire un peu plus sur cette question du chômage qui dérègle tout. Comment avancer justement dans une spécificité chrétienne? Vous avez à la fin de votre propos pointé plusieurs éléments, j'en retiens l'un ou l'autre, le caractère équilibré du message de l'Église qui tient ensemble l'importance des institutions et de l'engagement individuel, mais aussi, bien sûr, vous nous avez rappelé combien l'Évangile était une radicalité graduée. Il y a cette exigence vers la radicalité qui est toujours devant nous, mais qui prend en compte aussi cette tolérance de nos limites, et que c'est bien la figure de Dieu qui est totalement présente dans celui qu'on aide. Alors, vous avez terminé par ce que nous dit le père Étienne Grieux, le soin de l'autre ne peut pas être un service annexe de l'Église, c'est bien l'Église dont il s'agit, l'essence même de l'Église. Merci beaucoup de toutes ces pistes, je crois que pour nous elles sont vraiment très éclairantes et elles ouvrent bien le débat que nous allons avoir. Nous avons une bonne demi-heure, c'est rare que nous ayons autant de temps, donc nous allons bien l'utiliser. Le plus simple, c'est comme à notre habitude de faire passer le micro, recueillir deux ou trois questions ou convictions en essayant de ne pas trop se raconter. Et puis ensuite de redonner la parole à Jean-Baptiste. Voilà, vous levez bien le doigt. Voilà, il y a déjà une question devant au deuxième rang. Voilà.
Vous avez parlé de l'accompagnement des chômeurs, qui est une chose absolument importante. SNL a cherché à développer, me semble-t-il, l'accompagnement de chômeurs au sein même des sociétés. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous aviez, il y a quelques années, me semble-t-il, essayer de faire en sorte qu'il y ait des groupes de personnes au sein même de sociétés qui reçoivent des chômeurs de façon à ce qu'ils se sentent, ils continuent à être intégrés dans la société.
Voilà.
Exemple aérospatial.
Ah oui.
Merci. Donc ça, c'était une première question. Alors, une autre question complètement sur la droite. On va faire un peu de sport pour le porteur de micro. Donc, sur ma droite, à moi, dans la descente. Voilà, levez bien la main pour qu'on vous voie. Merci. Et parlez bien dans le micro.
Oui, vous avez évoqué le problème des rapports avec les politiques, parlant des difficultés pour la gauche, les difficultés pour la droite. Donc, est-ce qu'il nous reste le centre, ou alors qu'est-ce que vous pensez des sénateurs non inscrits? Est-ce que les non inscrits, est-ce qu'on peut faire appel à eux pour nous aider face à ces difficultés?
Merci.
Jamais fait, celle-là.
On vous l'avait pas faite encore, cette question-là, justement. C'est pour ça que ça valait la peine de venir. Alors, je suis sûr qu'il y a encore peut-être autres questions ou convictions. Voilà, Jérôme Vignon.
Est-ce que Jean-Baptiste peut préciser l'articulation entre les deux grandes catégories de pistes qu'il a ouvertes, la piste davantage personnelle, l'accompagnement et le prendre le soin des chômeurs, ce sont des choses que chacun peut faire, et il y a toute une expérience, et puis ce qu'il a dit juste avant, et qui concerne la construction d'un autre rapport entre l'économie et la société, et qui nécessite des changements organisationnels, non seulement personnels, et politiques. Et comment les deux choses se rattachent? Et comment est-ce que, justement, quand même, cette politique peut, à partir de l'individuel et de l'engagement personnel, avoir des idées que, pour l'instant, on a du mal à mettre en œuvre?
Voilà, on va commencer pour ça tranquillement. Quand il y a deux intervenants à la tribune, ça laisse toujours le temps à l'autre de se préparer. Là, j'essaye de meubler 30 secondes, mais je crois que je vais vous passer tout de suite la parole pour que vous puissiez répondre.
Alors, il y avait une première question, si j'ai bien compris, savoir si les groupes de solidarité que crée Solidarité Nouvelle Face au Chômage, s'il y en a dans des entreprises, dans des entreprises. Alors oui, il y en a. Nous avons 106, 107 groupes dans l'ensemble de la France, qui réunissent à peu près 1200, 1300 bénévoles. Et il y en a une dizaine dans des sociétés, à Vinci, dans des banques même, Société Générale. Donc ce sont des salariés qui se réunissent en général sur les lieux de travail et qui, de manière mixte d'ailleurs, avec des gens de grades différents, et qui donc reçoivent des personnes en recherche d'emploi et les écoutent, les aident, réfléchissent avec eux. Donc voilà, c'est une des formules possibles. Il y en a d'autres. Il y a des groupes qui sont nés dans des paroisses, hein, bien que l'association ne soit pas confessionnelle. Donc dans ces cas-là, les groupes doivent être ouverts à toute personne, mais pourquoi pas un jour en imaginer un dans cette noble assemblée. On a bien développé cette formule-là parmi d'autres. Il y a une petite sœur de Solidarité Nouvelle Face au Chômage qui s'appelle Solidarité Nouvelle Face au Logement. Bon, je sais pas pourquoi je dis petite sœur, d'ailleurs, une sœur qui a la même méthode pour le logement. Voilà. Alors, la gauche et la droite sont en difficulté. Est-ce que c'est le centre qui va trouver la solution? Ben, écoutez, par certains côtés, il y a un langage assez clair l'idée qu'il faut une nouvelle donne nécessaire, je pense, qu'on entend du côté du centre. Est-ce que, notamment sur la dimension fiscale, ensuite, faudrait réfléchir plus en avant pour savoir si le centre a ses problèmes. Je vais y réfléchir. Oui, je n'ai pas une réponse très claire à votre affaire. Mais en tout cas, l'idée du pacte civique que nous avons, c'est l'idée de faire quelque chose qui soit un peu commun qui soit un peu le socle du changement. Voilà. Mmh. On ne va pas traiter de tous les problèmes ni empêcher les conflits. Alors, on sait bien, on ne va pas traiter du problème des retraites ou du problème de la protection sociale. Mais on dit, il y a besoin qu'on change tous un certain nombre de choses, qu'on prenne du temps, par exemple, pour réfléchir à ce qu'on fait dans la vie, par exemple. Voilà. Qu'on donne un peu plus de temps et d'argent pour aider les autres, pour ceux qui le peuvent. Voilà. Il y a besoin d'un certain nombre, il y a besoin de recréer de la solidarité, de réencastrer de la solidarité dans la société civile, comme disait Pierre Rosanvallon dans son livre sur la crise de l'État-providence, qui doit dater du début des années 80. Et en lisant ce livre, qu'avec d'autres, on a eu l'idée de solidarité nouvelle face aux chômeurs, il dit, mais la solidarité n'est plus que dans les institutions, il faut aussi qu'elle soit, enfin, n'est plus... Il y a de l'entraide informelle, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Les familles sont assez généreuses avec les enfants. Il y a beaucoup de transferts privés. Je ne veux pas donner une vision caricaturale non plus. Mais sur un certain nombre de domaines, la solidarité, trop dans les mains de l'État, et l'État n'est pas assez articulé que la société civile. Donc, ce que nous voudrions, c'est voilà, dire voilà ce qu'il faut changer chez nous, voilà ce qu'il faut dans les organisations mettre en place. Pourquoi pas faire un audit dans les différentes organisations où nous sommes pour voir si au fond, on fait bien fonctionner la... Est-ce qu'on a une qualité démocratique suffisante ? Est-ce qu'on est sobre ? Est-ce qu'on est créatif, vraiment créatif ? Est-ce qu'on est juste ? Est-ce qu'on est fraternel ? Posons-nous les questions, y compris d'ailleurs dans les églises, après tout, pourquoi pas ? Les questions se posent partout. Il y a de la difficulté d'être ensemble partout, donc voilà. Donc, l'idée, c'est bien de donner les bases d'un changement sans vouloir créer un parti ou un mouvement, ensuite, que le jeu politique fonctionne, voilà, et fasse un certain nombre de réformes. Mais il y a quand même un problème de justice en France, quand même. On peut pas... On va être obligé d'augmenter les impôts, il va falloir le faire de manière juste. Ce qui dit le contraire, aujourd'hui, n'est pas crédible pour moi, en tout cas. Je peux me tromper, bien sûr. Enfin, voilà. Alors, ça nous amène à la question de Jérôme Vignon, que je remercie beaucoup de m'avoir posée. J'aimerais bien avoir la réponse au problème qu'il pose. Mais la réponse que j'ai, c'est que je ne l'ai pas. C'est-à-dire que il faut justement, ce qu'on peut faire de nouveau aujourd'hui, c'est justement d'articuler ces trois niveaux, qui jusqu'à présent n'ont jamais été vraiment articulés. Voilà. Que tantôt on est dans l'idée « soyons meilleurs et le monde ira mieux », ce qui ne marche pas vraiment, les institutions améliorent le vivre ensemble aussi. Donc, nos institutions aujourd'hui dysfonctionnent, il y a beaucoup de dysfonctionnements partout, alors il faudrait se lancer dans tout le débat sur les politiques publiques françaises, qui est un long débat, mais il y a beaucoup de dysfonctionnements. Les organisations ont perdu leur propre sens, souvent. Voilà, ce sont les moyens deviennent des fins. On se donne des sous-objectifs qui deviennent... On remplace des finalités éthiques par des objectifs qui sont en fait des développements de moyens, mais qui perdent de vue le sens profond des choses. Donc il faut que chaque institution, chaque organisation, les entreprises, les syndicats, les associations, essaient de savoir quel est le sens de ce qu'elles font. Voilà. Et qu'elles prennent en compte non seulement leur intérêt direct, mais les parties prenantes, comme on dit. Voilà. L'environnement, le reste. Voilà. Et puis il faut des changements politiques. Alors là-dessus, il y a besoin d'un progrès de qualité démocratique. Voilà. C'est clair que notre démocratie fonctionne pas bien, qu'on décide trop vite et qu'on décide mal. Je ne sais pas ce que vous avez dit au débat sur les retraites, mais il est à peu près évident qu'il va falloir augmenter la durée de cotisation. Est-ce que c'était la bonne manière de le faire comme ça ? Est-ce qu'il fallait reculer les limites, les bornes d'âge, comme on dit, les 60, 65 ans, où est-ce qu'il fallait augmenter la durée, on aurait pu en débattre plus. Voilà, on aurait pu, en plus, il faut tenir compte des symboles collectifs aussi. Un symbole collectif, la retraite à 60 ans, c'était devenu un symbole collectif, on ne doit ni s'y soumettre passivement, en disant on n'y touche pas, c'est un sacré qui nous surplombe et on n'y touchera jamais, ni mépriser le fait que c'est un symbole fort. Et il y a même les côtés un peu iconoclastes quelquefois qui est, que j'ai senti moi un peu qui pose problème. Voilà. Donc avoir une vraie éthique de la discussion pour poser les problèmes ensemble, bien se mettre d'accord sur les désaccords, savoir ce sur quoi on est d'accord ou pas d'accord. Parce que moi je ne sais pas non plus ce que voulait le mouvement qui refusait les réformes. C'était pas clair tellement ce qu'il vous disait non plus. Donc on est dans la confusion. Voilà. Or, la qualité démocratique, ça demande de la clarté. Et ensuite, des choix, bien sûr. On ne va pas... Le consensus, il faut le chercher, mais pas à n'importe quel prix. Et il vaut mieux, quelquefois, un bon conflit bien géré, clair, qu'un mauvais consensus au rabais. Donc, voilà, le conflit n'est pas nécessairement une mauvaise chose, à condition qu'il soit maîtrisé, qu'il ne soit pas violent. Voilà. Donc... Voilà, je réponds à Jérôme Vignon que ce qui peut être nouveau aujourd'hui, c'est de travailler sur les trois plans en même temps. Et ça, on l'a jamais tellement fait. Voilà. Alors, le problème, c'est le levier. Quel est le levier? Est-ce qu'un mouvement de la société civile peut suffire? Mais si déjà on peut faire passer cette idée qu'il faut faire les trois changements ensemble, qui ne sont pas des révolutions, mais des changements quand même importants, plutôt dans la manière d'être, dans la manière de faire que dans ce qu'on fait, si... Déjà, on aura progressé. Et le politique, les organisations, les personnes en tiendront compte. Et je crois que ces quatre principes de créativité, de sobriété, de justice et de fraternité sont des principes qu'il faut faire fonctionner ensemble. Ils nous montrent assez bien la voie à suivre, quand même. Ils nous montrent assez bien la voie à suivre. Voilà. Et je pense qu'il y a de la bonne volonté. Il faut aussi peut-être se faire un peu plus confiance. Voilà. Ce qui caractérise les Français, Jérôme, qui a beaucoup travaillé en Europe, aurait sans doute plus d'éléments de comparaison que moi, mais ce qui caractérise la société française, c'est une espèce de manque de confiance en soi, quand même, très fort, quoi, de pessimisme, que les cultures anglo-saxonnes ou les cultures nordiques ont moins que nous. Et pourtant, nous sommes capables de passer du pessimisme le plus noir à des réussites éclatantes. Je vois ça en matière sportive, par exemple. Ça me frappe toujours beaucoup. On est capable d'être complètement mauvais et puis tout d'un coup très bon. Et souvent, ça tient à un entraîneur. On a besoin d'entraîneurs. Voilà.
C'est vrai.
Il faut demander à Jacquet d'être candidat à la présidente de la République. À Aimé Jacquet.
Aimé Jacquet. Alors, on va continuer. On va reprendre peut-être une série de questions, de réactions devant. Voilà, il faut appuyer tout. Voilà. Au troisième rang, le micro arrive. Voilà, parlez bien dans le micro.
Vous avez évoqué la baisse drastique du taux d'expansion comme un des paramètres des problèmes. J'aurais aimé savoir ce que vous pensez de cette phrase, je crois qu'elle est de Paul Ricoeur, dont je ne suis pas absolument certain. Comment peut-on penser à une expansion infinie dans un monde fini?
Alors on va peut-être prendre une autre question pour avoir le temps de digérer la première. Voilà, tout au fond. Alexis.
J'ai été très surpris de découvrir qu'au Resto du Cœur, on organisait désormais un système économique parallèle, puisque des exploitations agricoles sont mises en place pour alimenter en fait le système des Restos du Cœur. Donc on est dans un système totalement parallèle. Donc faut-il regretter finalement la faillite de l'État-providence, ou doit-on considérer que ce type d'initiative sont des solutions salvatrices?
Merci. Est-ce qu'il y aurait une troisième remarque ou question à poser à Jean-Baptiste Foucault? Voilà, la troisième. Voilà, le micro arrive de l'autre côté.
Parmi les pistes à explorer, vous avez dit que le rapport à l'économique est en train de changer et l'usage du temps va changer. Pourriez-vous, s'il vous plaît, développer un petit peu ? Merci.
Alors, l'expansion infinie dans un monde fini, oui. Paul Valéry nous a dit « l'ère du monde fini commence ». Mais, d'ailleurs, est-ce que c'est si sûr que ça, que le monde soit fini, d'ailleurs ? Quand on regarde le Big Bang, tout ça, mais enfin, bon, laissons ce sujet de côté. Mais, c'est vrai qu'on regarde de plus en plus la Terre comme un vaisseau spatial, donc avec l'idée qu'il y a des réserves d'énergie et que on ne peut pas indéfiniment pomper sur le système sans mettre en péril le système lui-même. Bon. Donc, il est clair que le mode de vie occidental tel qu'il s'est développé ne pourra sans doute pas se généraliser à l'ensemble de la planète comme il est chez nous. Donc, nous sommes en train d'avoir un double phénomène qui se produit en même temps. L'idée qu'il y a des limites globales à la croissance de la planète Terre, le vaisseau spatial, et en même temps un rééquilibrage entre le monde développé et puis les nouveaux pays émergents et demain sans doute l'Afrique et d'autres pays. Voilà. Donc c'est ceci qui me fait penser que la question de la sobriété pour nous qui avons quand même accumulé des possibilités de vivre mieux exceptionnelles, cette question de la sobriété va nécessairement se poser. Mais je ne vais pas jusqu'à la théorie de la décroissance, qui est une question un peu posée par l'idée de l'abondance frugale. Voilà, si je pris le mot d'abondance frugale dans ce livre, c'est parce que je pense que dans l'idée d'abondance, il y a une idée métaphysique. Il y a une très belle idée dans l'idée d'abondance. Il y a une idée biblique. Il y a l'idée des ruisseaux de lait et de miel, l'idée de la terre promise, au fond, voilà. Simplement, je pense que la terre promise, elle n'est pas qu'économique, elle est spirituelle. Donc, garder l'idée d'abondance, mais la compenser par un principe de frugalité, de sobriété, qui nous oblige à séparer l'essentiel du superflu. Voilà, ça c'est quand même la question centrale, je ne l'ai pas assez dit. Je suis pour le droit au luxe. Mais pas pour le droit à tous les luxes pour des personnes déterminées. Je pense que chacun a besoin de son propre luxe, qui varie d'une personne à l'autre, qui est le luxe essentiel, qui n'est pas peut-être la pauvreté ni la santé, mais qui est pour la vie juste, quoi. Simplement, si on prend les trois dimensions de l'activité humaine que sont le professionnel, le relationnel et le spirituel, on ne peut pas avoir tous les luxes à la fois, voilà. Il faut choisir un peu, il faut savoir ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Et le superflu est toujours un prélèvement indu sur autrui, d'une certaine façon. Il pourrait être donné à autrui, le superflu. À autrui qui n'accède pas à l'essentiel. Le grand problème de notre mode de croissance, c'est que on a pensé qu'en laissant tout le monde courir après, sans distinction entre l'essentiel et le superflu, on permettrait comme par raccro à tout le monde d'accéder au minimum et à l'essentiel. Alors on voit qu'on n'y arrive pas. Donc c'est cette espèce de redistribution créative, pas triste, pas lugubre, qui, à mon avis, est ce vers quoi nous devons lutter. Voilà. Certains passent de sobriété heureuse. Voilà. Pierre Rabhi, Patrick Vivray parlent de sobriété heureuse. Bon, voilà. Une autre façon de dire les choses, de manière... Je parle d'abondance frugale parce que je pense que le tragique fait aussi partie de la condition humaine et que la vie est à la fois un enchantement et une épreuve et que c'est notre capacité à vivre cette dualité qui nous fait progresser. Peut-être même que nous sommes dans la vie pour vivre cette dialectique-là. Voilà, c'est peut-être même le plan pour nous obliger à aller plus loin. Voilà. Donc, expansion infinie dans un monde fini, une certaine forme d'expansion, oui, l'expansion essentielle, voilà. Je ne pense pas que l'histoire spirituelle soit terminée, par exemple. On a encore beaucoup à dire, à échanger, pour comprendre ce qui nous arrive, comprendre ce que c'est que l'histoire de l'humanité, pour comprendre ce que c'est que Dieu, qui est souvent le grand absent de nos réflexions, au fond. Qu'est-ce que Dieu fait pendant tout ça? Qu'est-il exactement? Voilà. Donc il y a quand même de l'expansion devant nous, voilà, qui n'est pas seulement matérielle, voilà. Alors, deuxième point, Restos du Cœur, système parallèle. Oui, alors, les Restos du Cœur, effectivement, on oublie trop souvent qu'il y a à côté des Restos du Cœur, les Relais du Cœur, qui sont des dispositifs d'insertion plus structurels, et c'est une chose, pour moi, très importante. C'est moins connu, mais on devrait plus le mettre en valeur. Et effectivement, on voit, alors, j'aurais dû en parler quand j'ai parlé de ce nouveau vivre ensemble. Tout ce qui se passe actuellement dans l'économie sociale et solidaire, au sens large, est une manière de vivre un autre rapport à l'économique dans lequel le lien est aussi important que le bien, voilà, comme le dit Jean-Louis Laville. Donc les coopératives, le mouvement associatif, les nouvelles formes de monnaie locale, les AMAP, comme vous savez, des circuits commerciaux courts se mettent en place entre des producteurs agricoles qui fonctionnent en manière d'agriculture biologique et des gens qui vont chercher leur panier régulièrement. Donc, toutes ces formes-là font partie de cette nouvelle économie imbriquée dans un nouveau vivre ensemble. Alors, moi, je ne dirais pas pour autant que c'est sa solution générale à tout. Vous avez parlé de crise de l'État-providence, ou l'État-providence à bout de souffle. Mais moi, je pense qu'il faut le préserver, l'État-providence. Il s'agit de... C'est un socle, il faut l'améliorer, il va continuer à progresser. Simplement, il ne va pas pouvoir tout faire. Et notamment, l'État-providence n'est pas capable de résoudre la question de l'exclusion. On ne peut pas s'assurer contre l'exclusion. On peut s'assurer, on peut indemniser les chômeurs, mais le fait d'être en situation d'exclusion, c'est-à-dire éjecté du lien économique-social, il n'y a pas d'assurance contre ça. La seule façon de s'assurer, c'est d'être remis dans le lien économique ou social. Donc, l'État-providence est mis en échec par le chômage, quand même. D'ailleurs, le chômage lui coûte de deux façons. D'abord, s'il y a moins de cotisations, et ensuite, parce qu'il y a davantage de prestations qui pourraient servir à autre chose. Mais les situations d'exclusion d'une personne qui est au chômage, même bien indemnisée, celle-là, elle ne peut se résoudre que par des créations d'emplois, que par de l'entrée dans l'économie sociale et solidaire, ou que par des formes de remise en activité qui font qu'elle a de l'utilité pour autrui, elle a de la valeur, elle s'estime elle-même, etc., etc. Donc, pour moi, c'est plus un problème. Je pense que ces formes, tantôt alternatives, tantôt plus fondues dans le système qu'il y a dans l'économie sociale et solidaire, elles font partie de ce rebattage des cartes qui est nécessaire, mais un rôle important à jouer, parce qu'elles ont d'ailleurs été moins affectées par la crise financière que d'autres, mais je ne jouerai pas tout là-dessus. Ça m'amène peut-être à dire un mot de ces trois cultures de résistance, de régulation et d'utopie. La culture de l'utopie, qui est très présente dans l'Évangile aussi, de la radicalité, je pense que c'est une culture qui est difficile à généraliser. Voilà. Chaque fois qu'on est dans l'utopie, dans quelque chose d'un peu difficile, d'un peu compliqué, il faut des qualités morales très fortes pour que ça marche bien. Sinon, ça dysfonctionne assez vite. Vous avez tous lu le roman de Duhamel, Le désert de Bièvre. Il explique une communauté qui essaie de se créer pour dire on va changer le monde, on va vivre autrement. Et puis au bout de quelque temps, il y a des petits problèmes qui se créent, puis finalement la communauté éclate. Voilà. Donc l'utopie, ça implique des qualités morales et un projet très fort, avec une forte adhésion. L'utopie économique qui a le mieux duré, finalement, sont les monastères. Les monastères, dans une vie économique, mais parce que l'économie est sujette à un système culturel et spirituel qui maîtrise l'économie. Mais ça ne peut pas généraliser ça. Donc, la culture de la régulation, de l'utopie doit toujours être interférée avec la culture de la régulation, c'est-à-dire les grands systèmes, les grandes règles du jeu. Voilà. Et donc, l'articulation entre les cultures de résistance, de régulation et d'utopie est vraiment un sujet politique fondamental. Voilà. Donc voilà, donc l'économie sociale et solidaire, c'est important comme un moyen de rééquilibrage du système et qu'un moyen de pousser plus loin, en effet, vers des formes de radicalité exigeante, mais qu'on ne peut pas imposer aux autres, voilà, qui ne marchent que par la conviction, par l'entraînement, qui ne doivent surtout pas fonctionner par la force, par la contrainte. C'était le grand échec du communisme, de vouloir créer de la vertu par la loi. Alors, la question du temps. Vous avez raison, j'aurais dû en parler plus. C'est une question centrale. D'ailleurs, pour moi, une grande partie de mes réflexions sont nées du travail qu'on avait fait avec Jacques Delors en 1980, où nous avions écrit un livre qui s'appelait « La révolution du temps choisi », dans lequel nous essayons de poser la question d'un droit pour chacun de gérer son temps de travail et son revenu. C'est-à-dire de dire, voilà, moi j'ai besoin d'avoir une espèce de liberté de choix entre plus de temps libre et moins de revenus, ou inversement. Choix qui peut varier, bien entendu, pour une personne, selon sa situation de départ, sa situation familiale, son intérêt pour son travail, ses talents ou vocations qu'il veut développer par ailleurs. Cette question du droit à un travail au temps choisi, qui, au fond, on n'a jamais réussi à la bien faire passer en France. Les 35 heures ont été une vision un peu caricaturale de ça, parce que justement, c'est tout le monde au même rythme. Or, pourtant, dans ce nouveau modèle économique, cette question est centrale, parce que entre l'essentiel et le superflu, ben, c'est le temps qui perd, le temps que vous consacrez. Le temps est une chose trop rare pour qu'on ne le consacre pas à ce qui nous est essentiel. Or, c'est bien compliqué. Une fois qu'on a dit ça, la vie moderne nous soumet à des contraintes quand même très fortes, et on est au fond assez peu libre quand on veut changer un peu nos modes de vie. Moi qui ai arrêté de travailler à certains moments pendant un an, ou qui ai travaillé à mi-temps moi-même, c'était pas facile. Je vois que... Bon. Alors, en plus, c'est complètement, je dirais, parasité par la question du chômage. Par la question du chômage, par la question du sous-emploi. Aujourd'hui, quand on regarde dans les enquêtes, vous avez à peu près 1,4 million de personnes qui disent « je travaille, mais je voudrais travailler plus », donc ils sont en temps partiel subi. Et vous avez 700 à 800 000 personnes qui disent « ah, moi, je serais tout à fait d'accord pour travailler moins et gagner moins, parce que j'ai envie de faire autre chose, mais j'ose pas, c'est pas facile, je pourrais pas revenir à plein temps quand je voudrais, donc je ne bouge pas ». Donc, dans le livre sur l'abondance frugale, je plaide pour un droit au temps choisi qui ne doit pas non plus désorganiser la production, donc il faut aussi que ça soit compatible avec les règles de production, mais qui soit lié à la sécurisation des parcours. Voilà. On parle beaucoup de sécurisation des parcours professionnels. D'ailleurs, je préfère parler de diversification, de qualification... Et avant de parler de sécurisation, parce que sécurisation des parcours, ça peut être une vision très défensive et corporatiste. Il faut en fait diversifier les parcours, les qualifier. Et dans le cadre de cette sécurisation des parcours, le droit au travail à temps choisi devrait être une composante importante. Et c'est un moyen d'aller vers une société plus sobre, plus créative, plus fraternelle. Voilà. Donc, comment va-t-on reprendre le dossier du temps ? Qui est très gêné par ce débat sur les 35 heures, on pourrait en parler longuement, mais qui aurait dû être fait de manière beaucoup plus souple. Alors là, il y aurait de longs débats sur ce sujet, mais voilà, je pense que cette question du droit au temps est un droit fondamental. Ça devrait être un droit de l'être humain au même titre que les autres. Voilà. Mais il faut l'organiser ensuite. Il ne suffit pas de le dire.
Le temps passe, on va s'approcher de la fin tranquillement. Je voudrais profiter que j'ai le micro pour poser une dernière question. J'aurais voulu revenir sur l'Église. Vous avez insisté sur la question du chômage et vous avez dit que ça serait important que les chrétiens se mobilisent davantage sur cette question du chômage, en fassent plus. Mais plus largement, lorsque vous pensez, lorsque vous voyez l'Église, quand je dis Église, c'est pas simplement la hiérarchie, mais c'est aussi les communautés chrétiennes. Quels sont, selon vous, un peu les domaines où vous souhaiteriez ou les sujets qu'elles soient plus audacieuses, peut-être plus courageuses, plus prophétiques, où vous l'attendez peut-être davantage?
Sur le chômage lui-même ou sur d'autres sujets?
Peut-être sur le chômage, mais peut-être sur d'autres sujets aussi.
Là, vous me posez une question terrible.
Ah, bah oui. Mais il n'y a peut-être pas d'attente particulière, mais ça m'étonnerait.
Ça sera un autre sujet quand même. Ça mériterait des débats un peu plus longs. Mais déjà, si sur le chômage on avançait, ça serait déjà pas mal. Non, je pense sur le dialogue interreligieux. On pourrait peut-être aller plus loin. Et je pense qu'il y a, mais je sens que je vais déraper. Donc,
on s'arrêtera après, donc c'est pas grave. Hein, mais
je pense qu'il y a une grammaire commune des religions, qu'il y a du méta-religieux, qu'il y a au-dessus des religions une espèce de grammaire commune dans laquelle chaque religion a développé plus des aspects que d'autres. J'ai été assez marqué par Raymond Panikkar, qui dit que, à côté du dialogue interreligieux, qui est quand même un peu un dialogue diplomatique, où on essaie de regarder ce qui colle, ce qui ne colle pas, lui, il parle de dialogue intra-religieux, c'est-à-dire d'idée de regarder la religion de l'autre, de la comprendre, non pas pour le convaincre ou savoir qui a raison, qui a tort, mais pour essayer de comprendre ses ressorts profonds. Et, dit-il, c'est grâce à ça qu'on découvre que les ressorts de l'autre, ils sont en fait dans sa propre tradition, mais on ne les voit plus. Donc l'idée d'un espèce d'enrichissement dans le dialogue intra-religieux, par la connaissance de l'autre, qui vous oblige à réévaluer ou à redécouvrir des choses qui sont dans votre propre tradition, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des expériences doubles, au fond. Ils ont quitté le christianisme, ils ont été cherchés un peu dans d'autres ressources spirituelles, puis ils y reviennent, en ayant enrichi leur vision. Voilà. Je pense que, écoutez, si vous voulez que je me pousse vraiment, mais ça... Je pense que la question du récit des origines, d'un récit un peu théilhardien, voilà, est à reprendre, est à retravailler. Voilà. On a besoin de nouveaux théillards. Je pense plus que ça relève d'individualité que de l'institution. Parce que l'institution, il faut qu'elle attende de voir pour crier le bon grain de l'ivraie. Voilà. Mais je pense qu'on a besoin plus d'audace de la part des théologiens aujourd'hui, d'une grande relance théologique, qui se fait un peu d'ailleurs. Je pense qu'après une période de vide, après les grands auteurs dont vous avez parlé d'ailleurs, dont Calvez était un des éminents représentants, il y a une période un peu où moi j'ai en tout cas pas beaucoup entendu, j'ai peut-être pas tout vu. Je pense qu'il y a un redémarrage aujourd'hui d'une pensée en profondeur qu'il faut, parce qu'il faudra bien un jour ou l'autre qu'il y ait un Vatican III. Mais il ne faut pas le faire trop vite. Et il faut un grand travail préparatoire. Voilà, si vous voulez me dire le fond de ma pensée, voilà ce que je voulais dire. Voilà.
Je ne regrette pas ma question. Mais...
J'espère que je n'aurai pas à regretter ma réponse.
Non, absolument pas. Écoutez, merci beaucoup Jean-Baptiste de Foucault. Alors, on ne va pas changer le monde ce soir, mais vous nous avez vraiment donné du courage pour continuer à réfléchir, à agir aussi sur ce qui touche vraiment à l'essentiel de nos vies et de notre vie en société. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'abondance frugale pour une nouvelle solidarité. Je ne sais pas si c'est du luxe ou du superflu de le lire, mais en tout cas, il faut vraiment le lire. Et je vous rappelle et je vous donne rendez-vous au prochain mardi d'éthique publique, le 1er février, pour notre prochaine soirée. Le thème n'est pas encore complètement décidé, mais vraisemblablement il sera autour de la question de l'information. Sommes-nous bien informés? Nos médias nous informent-ils convenablement? Qu'est-ce qu'informer finalement? Peut-on tout dire? Ce sera a priori le mardi 1er février prochain. D'ici là, bonne soirée et bon mois.